Frobert, qui est donc en thèse à l'université de Rouen et à l'université du Havre, donc en co-direction dans le cadre d'un doctorant radiant, avec donc, excuse-moi, tu vas devoir me redonner le nom de la personne qui te dirige, parce que comme elle a changé, quand je ne l'ai pas encore rencontrée, je n'ai pas son nom en tête, Isabelle.
Béatrice Fussol.
Voilà, pardon, excuse-moi, il faudra vraiment qu'on crée le lien cette fois-ci.
Oui, on va le faire.
Et donc, je te laisse te présenter toi-même ton sujet de recherche et pour cette journée d'aujourd'hui.
Pas de souci. Ben, bonjour à toutes et à tous. Déjà, et je suis très content d'être avec vous. Juste pour vous prévenir, ma présentation, elle va être différente des vôtres. Dans sa forme, dans son contenu, parce que la nomenclature du doctorat est très particulière et je vais vous en parler. Ma présentation va se situer dans la continuité, je pense qu'on peut dire, des deux présentations précédentes, car je vais faire fusionner l'art et la médecine. Donc le titre que j'ai proposé pour aujourd'hui, c'est Épilepsie, deux points, entre vécu, recherche et création, zone et forme d'un travail hybride. Alors, juste pour vous faire un petit point sur mon parcours, moi je viens pas de la philosophie, mais de la création littéraire, un master que j'ai fait au Havre, et puis du coup on y arrive de la recherche-création. C'est Nathalie qui m'a ouvert la voie de la phénoménologie en saisissant mon intérêt sur l'expérience vécue et racontée. Le doctorat que je fais s'appelle Radiant. Il consiste en trois choses. On me demande une création artistique, une thèse de recherche et un journal de bord. Je vous parlerai de chaque élément plus tard. Ce doctorat est en invention dans sa nomenclature, c'est-à-dire qu'on peut produire l'objet de la thèse comme on le souhaite, en termes de mise en page, etc., avec certes le respect des normes académiques, et la soutenance, c'est pareil, c'est-à-dire que je peux faire une performance si je le souhaite, etc. Je vous en parlerai peut-être plus tard. Pourquoi l'épilepsie comme sujet d'étude? Eh bien parce que je suis moi-même épileptique. Et dans le protocole de recherche que j'ai adopté, il est protéiforme, c'est-à-dire que je choisis de me déplacer, d'aller notamment à la TEP, qui est un centre de soins pour les adultes épileptiques. Je mène des entretiens avec des personnes épileptiques et je fais des rencontres, notamment avec une personne, Claire Gentil, qui m'a beaucoup apporté, qui m'a fait découvrir les humanités médicales, qui est un point de jonction entre les sciences dures et les sciences humaines pour être grossier. Alors, petit point sur la recherche-création. Comment dirais-je? C'est un lien, un rapport bilatéral et réciproque entre la recherche et la création. Élise, tu parlais de cogénération tout à l'heure et ça me semble assez approprié, dans le sens où d'un côté, la recherche va apporter la création et de l'autre côté, la création à la recherche. Je pense qu'on peut dire assumer l'acte de création ou de fiction dans la recherche et l'acte de recherche dans la création. C'est très récent en France. Le protocole de recherche est donc à mettre en place, n'a pas vraiment de modèle, nous, les doctorants actuels. Et en même temps, ce processus est visiblement empirique, car en effet, chacune de ce type de thèse articule différemment la recherche et la création, ne serait-ce que par la différence de médium. Moi, par exemple, j'ai écrit un roman, d'autres font de la photo, d'autres de la performance, etc. Donc chaque doctorat invente sa forme, si j'ose dire. Et par ailleurs, l'université française, et je pense que je ne vous l'apprends pas, différemment du monde anglo-saxon, même s'il n'est pas parfait du tout, reste encore très frileuse et pleine d'incompréhension face à cette démarche de recherche-création, qu'elle va juger de subjective notamment. D'autant plus dans mon cas où j'utilise ma propre pathologie. Alors, pour en venir enfin à ma thèse, mon intuition de base, c'était de travailler sur la représentation de l'épilepsie dans la littérature. Je m'étais confronté à des représentations assez canoniques et anciennes, comme Dostoïevski, par exemple. Le souci, c'est que je ne trouvais pas de représentation contemporaine enfin, qui me parlait, quoi. Et c'est là où, grâce à la rencontre avec Claire, je me suis acheminé vers l'intuition de représentation de l'épilepsie dans les littératures contemporaines. Toutefois, je me suis rendu compte que dresser un inventaire ne m'intéressait pas du tout, en fait. Et ce qui m'intéressait, c'était justement ce que Radiant permet, c'est-à-dire d'étudier la tension entre la création et la recherche universitaire. Et actuellement, grâce au concours de Nathalie, je suis arrivé plutôt à une lecture expérientielle de la crise et donc écrire pour faire ressentir. Ce qui m'intéresse, c'est la conception de la phénoménologie comme pratique expérientielle et aussi l'effet physique de la lecture sur le ou la lectrice. Donc l'effet de la lecture est donc la production d'une sensation aussi dans l'acte d'écriture. En tout cas, quand on écrit, pensez à ça, c'est-à-dire faire vivre quelque chose au lecteur ou à la lectrice. Ma thèse s'articule donc dans une constellation entre crise, corps, mémoire. Le plan que j'imagine pour le moment est dans une première partie le corps en crise, la mémoire corporelle et enfin la crise d'un corps amnésique, hypermnésique. Comment j'ai travaillé pour le moment? Eh bien, j'ai pensé dans une première année me composer un corpus de lecture fictionnelle, romanesque. Dans la deuxième année, écrire, pardon, ce cortex de lecture en général, pas que fictionnel et romanesque, mais aussi théorique, et je commence à rentrer dans la théorie. La deuxième année, ce sera la rédaction, l'écriture, pardon, de mon roman. Et enfin, dans la troisième année, la finalisation de la rédaction de ma thèse. Les lectures qui m'ont beaucoup apporté pour le moment étaient notamment Wolfgang Ise. L'acte de lecture m'a permis vraiment de me rendre compte que déjà l'acte de lecture est un acte en lui-même décomposable en phases, en étapes et en conséquences. Et que par ailleurs, l'écriture pouvait articuler des réactions oui, physiques. Ensuite, et je passerai là-dessus, mais juste pour citer leur nom, Oliver Sacks ou Siri Hultzvedt, qui permettent de décomposer des manifestations différentes de la neurologie, de la psychiatrie, et aussi des approches différentes des pathologies mentales. Voilà. Ensuite, mon roman s'appelle Cerveau. Qu'est-ce que j'entends faire dans ce roman que je vais dont je vais attaquer l'écriture en septembre, c'est deux narrations parallèles. Une narration d'un côté d'un personnage que j'ai appelé Corps, qui peut être tous les patients et patientes potentiels et qui partagent un seul cerveau. Ces patients et patientes potentiels sont sur une phase descendante qui arrive à une crise d'épilepsie, pas du tout décrite, mais donnée à vivre en termes littéraires. Et la deuxième narration, ça se situe dans ce cerveau même que je vois comme une architecture, un lieu qui est l'hôpital et dans lequel évoluent des personnages. Et c'est en ce sens que je veux écrire ce roman, que je décris comme une fiction épileptique, c'est-à-dire que ça a comme volonté d'une part de faire ressentir l'épilepsie, mais aussi politique, c'est-à-dire de dresser une métaphore qui part notamment de la biopolitique de Foucault, qui entend montrer que les décisions politiques ont des conséquences directes sur les corps des gens. Voilà. Ensuite, la performance que j'entends produire, peut-être pour ma soutenance de thèse, ou alors en parallèle, c'est. Je vais vous expliquer déjà ma base, ce que je voulais en faire avant et ce que je veux en faire maintenant. Ce que je voulais en faire avant, c'était de faire une crise d'épilepsie sur scène, c'est-à-dire de rassembler les facteurs favorisant de la crise, que sont pour ma part ne pas trop dormir, ne pas trop manger, être soumis à du stress et surtout des stroboscopes, et tout en ayant prévenu les spectateurs, en leur disant qu'ils auraient le choix de partir avant que je commence, et pendant que la crise marche, aurait marché, si elle aurait marché, faire entendre un texte que j'aurais écrit, que j'aurais enregistré avec ma propre voix, ça aurait été pour jouer sur la présence, absence, je vous parle mais je ne suis plus là, etc. Je ne suis plus là, je vous parle plus même. Bon, je me suis confronté au fait que la Enfin, j'avais pas envie de refaire de crise, j'en ai pas fait depuis plusieurs années. Et que par ailleurs, ça posait la question éthique, morale, je sais pas. Morale, non, parce que la morale m'intéresse pas, mais éthique, en tout cas, de pornographie, de la douleur. Bon, je ne suis pas allé là-dessus, mais je suis plutôt allé sur faire une performance en armure de chevalier qui serait sur laquelle on projetterait de la lumière. Ce serait une métaphore du combat avec la lumière. Moi, je suis très photosensible. Voilà. Dans les projets que j'ai pu mener dans le cadre de mon, ou que je vais mener dans le cadre de mon doctorat, j'ai animé un séminaire radiant avec Claire Gentil qui s'appelait Approche croisée d'un objet d'étude complexe de point d'épilepsie, où on tissait deux pratiques d'études hybrides que sont donc les humanités médicales par Claire Gentil et d'autre part la recherche création pour ma part. Si vous souhaitez, je peux vous envoyer la captation vidéo qui sera beaucoup plus exhaustive que la présentation que je fais aujourd'hui. Je n'avais pas du tout envie de rentrer dans les détails de ma thèse et plutôt de vous présenter la spécificité et de ma thèse et de ma création. Par ailleurs, cet été, nous finirons avec Claire aussi notre contribution à un ouvrage collectif sur l'activité physique adaptée. Nous a été proposé par un doctorant en thèse CIFRA à la TEP, donc vers Lyon. Et c'est sur l'épilepsie et le sport, donc, et nous on propose l'axe littéraire. Et enfin, en septembre, j'ai proposé à l'école d'art de Caen un workshop avec un collaborateur, Emmanuel Guillot. Et le workshop s'appellerait Écrire par le corps, faire communauté, laboratoire de rituels bienfaisants. Voilà donc ce dont je n'ai pas parlé, mais qui peut être intéressant en guise de conclusion et d'ouverture, si j'ose dire, c'est que j'étais complètement perdu à la base de Radiant, parce que je n'ai pas fait de master ni d'études littéraires, ni de philosophie. Donc la théorie critique m'a bien perdu. Et par ailleurs, comme je n'ai pas de modèle de doctorant radiant, puisque la première promotion va se tenir là en septembre, octobre. Toutefois, ce que je trouve pertinent en termes phénoménologiques, si j'ose dire, dans le travail avec Nathalie, c'est que plus j'avance, à la base c'était très très flou, et maintenant j'assume ma posture. Qui est vraiment d'enquête, et pas sur moi, mais autour de moi, et toutefois en ayant une expertise de patient expert, donc, comme on en parle maintenant. Donc effectivement, c'est très déroutant pour la plupart des gens, notamment mon CSI, quand je leur parle de cette nomenclature de recherche, qui est à la fois de la création et de la recherche, puisqu'elle ne comprenait pas les membres de mon CSI à la base. Et toutefois, quand j'ai bien insisté sur la spécificité de la recherche-création, c'est là où elles ont commencé à comprendre où l'enjeu se situait, c'est-à-dire, oui, une tension entre ce que je crée, moi en termes artistiques, et là où je vais chercher en termes universitaires. Voilà, ma proposition était assez courte, mais je pense que c'est très bien pour ma part, parce que justement, avec l'épilepsie, les écrans sont difficiles pour moi, et je suis obligé avec mes écouteurs d'être proches de l'écran, et comme les deux propositions précédentes étaient assez longues, ça me semble convenir. Voilà. Si vous avez des questions, je les prends avec plaisir, et toutefois, si vous voulez engager des dialogues par rapport à la recherche-création ou l'épilepsie, ben, je suis très preneur, et c'est vrai que là, c'était peut-être un peu maladroit de ma part ce matin, mais Élise, je trouvais hyper intéressant hein, son approche, même si elle était beaucoup plus philosophique que du point de vue de la peinture. Et le dialogue entre les disciplines me semble au cœur des enjeux de la recherche actuelle en sciences humaines, en tout cas, puisque comment étudier un sujet d'étude sans le comprendre et sans le pratiquer? Le pratiquer, pas forcément en termes personnels d'une manière professionnelle, mais s'y confronter.
Merci. You are now Merci beaucoup, Al, pour ta présentation, toujours très honnête, très authentique dans ta manière de voilà d'assumer en fait aussi un certain nombre de critères de recherche et de pratique et de relation à toi, à toi-même, à soi. Je trouve que c'est tu n'as pas beaucoup dévoilé finalement le contenu même de ton travail, mais peut-être tu pourras nous en dire un peu plus au fur et à mesure des questions. Et il y a déjà une question de Elsa, donc que je vais laisser reformuler elle-même d'ailleurs. Elle l'a posée sur le chat, mais je pense
Oui,
qu'elle peut le dire
c'est
elle-même.
juste une question administrative. En fait, le programme Radiant, ça me fait penser au programme Sacre qui existe à PSL. Parce que l'autre, on avait un programme d'écriture avec des doctorants et ils ont évoqué les mêmes problématiques que toi. Du coup, la difficulté d'écriture parce que bah, ils n'ont pas forcément été. Enfin, d'écriture, pas d'écriture parce que toi, tu écris un roman, mais donc j'imagine que ça doit aller, mais du moins académique, quoi, vu que vous n'avez pas forcément fait tous. D'études littéraires ou philosophiques, du coup, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Vous devez produire une production artistique en plus de votre travail de thèse. Et je me demandais, moi, comment tu arrives à gérer ça, parce que ça a l'air d'être un gros travail. Oui, complètement. Ben, merci de parler de ça. Alors, Sacre et Radiant sont tout à fait comparables, mais dans le sens où c'est des doctorats de recherche-création, il y en a très peu en France. Toutefois, la différence entre Sacre et Radiant, c'est que Sacre, en gros, c'est un ensemble d'écoles supérieures très connues et prestigieuses, l'ENS certes, mais aussi les Beaux-Arts de Paris, etc., la Comédie française, enfin le conservatoire. Et donc en fait, ils se sont groupés et en tant que doctorant, tu as accès à tous les séminaires de recherche communs. Mais par contre, chaque école produit son propre concours et a donné droit à des contrats doctoraux. Moi, je suis pas en Radiant, je ne suis pas en contrat doctoral, j'ai une bourse de recherche. Et la deuxième différence, c'est qu'il y a un seul concours. L'autre différence, c'est que si tu regardes les profils des gens qui sont à Sacre, c'est tous des profils très prestigieux, ils ont déjà fait énormément d'expos, etc. Et nous, c'est plutôt. Radiant s'assume comme un tremplin pour des jeunes, pardon, peu importe leur âge, mais artistes, chercheurs, avec un tiret, puisque les deux. Et deuxième chose, effectivement, moi, ce qui est compliqué, puisque ma pratique artistique, elle est majoritairement dans l'écriture, il est compliqué parfois de dissocier l'écriture romanesque de l'écriture de recherche, mais c'est là aussi où c'est l'un des enjeux de ma thèse, c'est de rentrer dans la fiction, dans le style même de l'écriture de la thèse. J'ai employé des gros mots, mais d'être presque récréatif, ou en tout cas sensitif, c'est là où ça peut être déroutant. Et par ailleurs, dans les difficultés rencontrées que là je partage, effectivement, moi j'ai fait une double licence de lettres modernes et d'anglais, après j'ai fait un master de création littéraire. Et donc du coup, le master a été l'occasion pour moi, si c'était en recherche, de me confronter à un appareil critique, etc., et de développer les miens propres. Et là, c'était compliqué à la base, mais je trouve que c'est aussi, c'est pas une question de force, mais c'est ça qui est excitant, c'est-à-dire que, d'autant plus que mes deux productions sont écrites, tout se mélange, et au fur et à mesure, je sélectionne grâce à Nathalie notamment, mais ça m'amène sur. Moi, je travaille sur quoi en fait? Je travaille vraiment sur l'acte d'écriture et sa réception. Et en quoi l'écrivaine va penser et chercher à provoquer des sensations et voir des bugs chez l'autre. En termes concrets, moi, dans mon roman, qu'est-ce que je cherche à créer? Par exemple, il y a des pages, quand on lit n'importe quel roman, où parfois on ne sait plus trop précisément ce qu'on a lu. Par exemple, un roman que j'ai beaucoup aimé, Antoine Volodine, Terminus Radieux, ou très à la mode, que j'aime un peu moins, mais qui est intéressant, Damasio, il y a des pages où on est perdu dans un flux poétique. Poétique, pardon. Et moi, étant épileptique, c'est assez facilement des sensations que j'ai de perte de mémoire, ou de mélange, de stimulation, etc. C'est ce que j'ai envie de rendre dans l'écriture. Et donc, du coup, dans la recherche, j'ai envie d'analyser comment on peut prendre en charge ces flous. Et du coup, le corps en crise, dans mon plan, là, le corps en crise, ce serait le corps physique, ce sera le corps projeté, mais peut-être aussi le corps politique. C'est là où, bon, c'est trop large, mais moi m'intéressait aussi considérer le corps individuel, mais le corps communautaire, collectif, public, le corps de notre société est complètement en crise. On le voit bien ces derniers temps avec les manifestations et l'arbitrarité du pouvoir, etc. Ensuite, mélanger mémoire et... Bon voilà, c'est un peu flou en fait pour le moment, pour être honnête, mais en fait, avec mes conditions de santé, j'ai demandé une année supplémentaire de recherche, parce que normalement c'est en 3 ans, SAC ou Radion, financé en tout cas, et je vais avoir une année supplémentaire de thèse, donc là en fait, qui sera pas financé, mais c'est pas grave, je me débrouillerai. Et là j'ai l'impression vraiment d'avoir vécu une première année bis, où j'ai pu aller plus loin dans les lectures, et donc du coup là, l'année prochaine, je commence vraiment l'écriture de mon roman et la complexification et la rédaction de la thèse en somme. Et voilà, un truc dont je vous ai parlé, si ça vous intéresse, je vous ai mis sur WeTransfer un lien de la, du séminaire que j'ai animé avec, avec Claire Gentil, et je vous le copie-colle si ça vous intéresse. Voilà.
Merci, merci beaucoup Al. En vous écoutant.
Pas très orthodoxe, je suis d'accord. Donc vous devez soit être pas intéressé, soit déstabilisé. Mais bon, en tout cas, moi j'ai l'impression de m'épanouir dans ce truc.
Non, pas du tout. Pas du tout. En t'écoutant parler de cette notion de cette expérience de corps en crise de différentes manières, dans différentes ramifications. Ça me faisait penser à un texte de Jean-Luc Nancy qui s'intitule Corpus et qui fait précisément, enfin qui joue, y compris dans justement son écriture aussi, l'écriture de Jean-Luc Nancy, qui joue sur à la fois l'ambiguïté et la double dimension du corps organique et du corps textuel. Le fait même de l'appeler corpus, enfin son livre, c'est intéressant parce que un corpus, c'est un corpus textuel, et en même temps corpus, c'est simplement le mot latin de corps au sens organique aussi du terme, et donc dans ce texte là il joue vraiment sur cette double dimension, et y compris en créant un mélange dans sa manière même d'écrire, et je me dis que peut-être ça pourrait être intéressant, enfin, de voilà, pour toi d'aller explorer ce travail. Peut-être ça entrerait en résonance avec ce que tu es aussi en train de chercher de ton côté.
Et puis comme je me suis laissé jusqu'à août pour clôturer mes lectures, en tout cas que j'ai chez moi, bon,
ça tombe
je peux
bien.
Y aller, j'espère que c'est pas un trop gros livre, parce que j'en ai déjà encore pas mal. Mais il y a une autre chose dont j'ai pas trop parlé, c'est que en termes politiques, bon bah moi j'ai une vie associative et militante assez remplie, mais c'est pas le sujet. Ce que je trouve important et qui était la base de mon dossier de candidature pour la thèse, c'était de réhabiliter la parole du patient. C'est-à-dire que toutes les études, surtout francophones, et surtout françaises en fait, qui étudient des pathologies, en fait, elles parlent de la pathologie. Déjà, elles dépersonnalisent assez facilement le ou la patiente, d'une part, et d'autre part, les patients, les patientes n'ont pas forcément leur mot à dire. C'est-à-dire que la posture, la pratique de patient-expert est vraiment très anglo-saxonne. Elle existe depuis très peu de temps en France. Et c'est là où il est important pour moi de donner en temps l'expertise du ou de la patiente, de son propre, de la propre pratique de son corps. Et ça m'amène à, en termes littéraires, ce qui moi m'intéresse, c'est les notions de réalité et comment produire, du coup, en termes romanesques, une réalité différente et du coup amener le ou la lectrice à faire une expérience sensorielle dans la lecture. Et c'est ce que moi j'essaie d'étudier aussi dans le cadre de ma thèse, et j'ai lu aussi beaucoup de romans, voir comment ils fonctionnaient. Il y a des romans qui ont été écrits sous alcool, sous différentes drogues, etc. Ça c'est intéressant, notamment comme ou alors Oliver Sacks qui parle de différents cas de patients et patientes qui ont des cas neurologiques très particuliers, et c'est vrai que ça m'intéresse parce que c'est un sujet d'intérêt. C'est pas forcément, moi j'ai envie qu'on arrête de qu'on sorte en fait de la vision du déficit, du handicap comme trou, comme gouffre, alors qu'il peut être juste même pas juste, qui peut être une singularité de vie, qui amène une pratique neurologique, cognitive différente.
Tout à fait, tout à fait. Je suis absolument d'accord avec toi. Je pense qu'il y a vraiment encore beaucoup à faire à ce niveau-là. Quand tu dis patient expert, en fait, tu veux. Moi, j'ai un autre terme, mais je pense que c'est la même chose. On parle aussi de père aidant. De père PAIR aidant, donc quelqu'un qui est placé en parité avec un soignant, une soignante, et qui a ce rôle d'aide aux patients et patientes. Je pense que c'est un terme qui est comparable.
Ouais, j'imagine que c'est le même terme. Moi, j'avais entendu patient expert dans le sens où, pour des études, on fait appel à leur expertise. De sensations, d'habitude de vie, etc. Mmh. Et père aidant, je l'avais déjà croisé, mais je n'y étais pas attardé dessus, j'irai jeter un œil.
Ça existe dans un certain nombre de structures hospitalières. Enfin, moi, je connais une structure avec laquelle j'ai beaucoup travaillé dans les Yvelines, dans une ville qui s'appelle Plaisir, où il y a l'hôpital Charcot, qui est un hôpital où se trouve un centre d'urgence psychiatrique. Le groupe ERIC, équipe rapide d'intervention de crise. Si tu vas sur ce site, en fait, tu verras, je ne sais pas si c'est mentionné explicitement, mais en tout cas, ils recrutent régulièrement des pères aidants, justement, qui sont d'anciens patients, qui ont été soit en rémission, soit en tout cas sont dans un état de stabilité ou de mieux-être. Et ils les recrutent, donc ils sont payés, en fait, et ils participent. Aux réunions cliniques, et ils servent un peu de médiation, d'intermédiaire, étant entre guillemets eux-mêmes passés de l'autre côté de la barrière, évidemment, ils ont un type de regard, de perception et de vécu que n'ont pas les médecins ni les infirmières ou infirmiers, donc ils jouent vraiment ce rôle de passerelle, quoi. Donc ça, je sais que ça existe dans cette structure-là, et même si c'est pas encore. Même si c'est resté timide par rapport effectivement au monde anglo-saxon, on a un certain nombre de cas, et je trouve que c'est vraiment intéressant aussi de raisonner comme ça, ainsi que le fait de donner la parole aux patientes et aux patients. Enfin, c'est vraiment un enjeu extrêmement important. C'est aussi ce qu'on, enfin, je crois qu'on en avait parlé, c'est aussi ce qui est beaucoup développé dans le cadre de ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Toute cette structure de formation où justement on considère que les patients et les patientes sont à travers leur expérience, les preuves qu'ils traversent, s'éduquent, peuvent être éduqués, et s'éduquent jusqu'à acquérir un certain nombre d'outils, de réflexes qui leur permettent non pas de pratiquer de l'automédication, mais d'être eux-mêmes en meilleure possession de leurs possibilités d'être. Donc ça, c'est quand même quelque chose, enfin, je pense que ça rejoint vraiment ce que tu mets en avant aussi.
Complètement, et c'est là où on en revient à des dimensions politiques. C'est quand tu parles d'éducation thérapeutique, on va jusqu'à même, pour les personnes trans notamment, c'est un tout autre sujet, mais avoir des groupes qu'on appelle d'autosupport qui se situent, choisissent des professionnels de santé qui sont safe, etc., mais qui vont, en dehors de la défiance ou de la méfiance à la médecine, il y a. S'autonomiser d'une certaine manière. Il y a deux points sur lesquels je voulais revenir, je ne sais plus. Ah si. Le premier, c'était le protocole de recherche, et moi, ce que je trouve très excitant pour ma part, c'est qu'effectivement, bon, je lis, comme toutes les doctorantes, et par ailleurs, sur le terrain, si j'ose dire, et j'aime beaucoup aller voir des gens, donner des entretiens. Du coup, ça me pose la question de comment je vais utiliser ces données dans le cadre de ma thèse, les données récoltées dans l'entretien. Mais il y a aussi me déplacer à la tech notamment, qui a été assez extraordinaire, rencontrer des neurologues, etc. Et par ailleurs, j'assume complètement, ça je l'ai déjà formulé dans le cadre de ma thèse, mais petit à petit, mais c'est je ne suis pas médecin, je ne veux pas l'être en fait. Donc j'assume complètement la part fictionnelle, fantasmée du travail que je propose. Quoi. Je ne sais plus quelle était la dernière donnée, mais c'est pas bien grave.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah, pour ce qui est des entretiens, on pourrait en reparler si tu veux, enfin, parce que je pourrais te donner quelques pistes pour avancer sur ce terrain. Bon, voilà. Est-ce que certains ou certaines qui sont dans l'assistance virtuelle auraient des questions, voudraient intervenir? parmi les auditrices, auditeurs. Bon, vous pouvez toujours revenir, on fera un petit temps de bilan à la fin de la journée.